grain de sel. Grain de sel.
RVM vous propose d'écouter une des émissions de Radio Capet de la Maison des lycéens de UCAPET 210.
T'as capté ?
T'as capté ?
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de T'as capté. Aujourd'hui, j'ai la chance de me retrouver avec Adèle. Bonjour Adèle.
Bonjour à tous.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien et vous ?
Très très bien. Alors, le numéro d'aujourd'hui de T'as capté, Adèle, il est consacré à...
C'est donc une émission sur le consentement principalement, et ainsi que tout ce qui est agression sexuelle, viol, etc.
Donc le consentement dans la relation amoureuse.
Dans la relation amoureuse, exactement.
Et puis on s'attachera plus particulièrement à ce qui se passe chez les plus jeunes, d'entre nous,
ouais.
C'est-à-dire pas moi.
de mon âge, dans le 15-20 ans, cette tranche d'âge.
Un peu au-delà également.
Voilà. Ça touche tout le monde.
Très bien. Alors Adèle, je voulais souligner le fait que tu es à l'origine de cette émission. C'est toi qui as souhaité que cette thématique soit abordée. Et je te remercie parce que c'est une thématique extrêmement importante. On va essayer de l'aborder sous un angle un peu léger comme on le fait d'habitude. Mais en même temps, c'est un sujet grave. Donc forcément, il y aura des moments qui seront peut-être un peu plus plombants. Et on va faire des constats qui ne sont pas toujours les constats les plus heureux qui soient. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous Madame l'adjudant-chef Sandrine Forestier. Et vous êtes adjudant-chef de, vous me corrigez si je me trompe, de la Maison de prévention et de protection des familles de Beauvais.
C'est exactement ça. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui.
Et nous sommes très heureux de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion dans le cadre de cette émission d'accueillir des invités extérieurs. Et là, pour le coup, ça valait vraiment la peine parce que vous êtes un peu experte du domaine. Oui. Et donc, le consentement, effectivement, l'absence de consentement et l'agression sexuelle, c'est un phénomène traité en police et en justice. Et
exactement.
Donc, c'est vous qui apportez la réponse de la société à ce phénomène. Eh bien, écoutez, on va démarrer tout de suite et Adèle va donc nous expliquer ce qu'est le consentement.
Très bien. Alors, le consentement, c'est donner son accord. Donc, aujourd'hui... Il y a une zone qui est assez floue autour de ce terme et de ce qu'il signifie réellement. Quand on parle de consentement, on parle évidemment de consentement dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle. Donc pour les filles, c'est déjà très différent entre filles et garçons, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui sont les mêmes. Évidemment, le consentement pour les filles et les garçons, c'est la même chose. C'est oui et c'est donner réellement son accord. C'est être d'accord avec... Les actes qui vont se passer après l'accord. Donc pour les filles, c'est compliqué à comprendre, car on ne sait pas forcément comment le dire, donc dire soit son oui, soit son non. On a une tendance à dire oui parce qu'on est trop loin dans l'action pour reculer, on a aussi la peur de décevoir le ou la partenaire. Et puis, donc c'est compliqué de savoir dire oui et d'être sûr que son oui est juste et consenti. Après, il faut savoir s'écouter parce que lorsqu'on dit oui, c'est un vrai oui, c'est-à-dire qu'on désire faire ce qui va se passer après. Après, quand on parle du non, il faut savoir également l'exprimer. Évidemment, c'est compliqué de dire non immédiatement et de savoir lorsqu'on a envie de dire non. Mais il y a le langage corporel qui va nous aider avec ça. Évidemment, le langage corporel va exprimer notre pensée. Généralement, mais c'est compliqué évidemment de le lire puisque il y a les trois F, flee, fly and freeze. Et donc du coup, c'est difficile de lire le langage corporel, mais généralement, il parle beaucoup. Donc évidemment.
Alors tu te situes, Adèle, dans une situation où, dans le feu de l'action, on n'a pas forcément discuté avant, parce qu'il y a deux façons d'exprimer son consentement,
oui,
soit dans le cadre d'une conversation très réfléchie et très posée,
oui,
soit au moment où la question se pose de façon plus brûlante, on va dire, et où c'est plus compliqué de fournir des arguments et de conserver la tête froide, peut-être.
Oui, clairement, et je pense pour les deux partenaires, c'est compliqué. Donc comme j'ai dit, pour les filles, ça va être compliqué de dire. Oui, si on ne sait pas vraiment si on en a envie ou c'est juste parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre et pas... Enfin, c'est 50-50 généralement dans ces moments-là. Tandis que pour dire non, c'est aussi compliqué parce qu'évidemment, encore une fois, on a la peur de décevoir l'autre, mais dire non, c'est... c'est dur de dire non et de dire à une personne, bah non, j'ai pas envie que tu touches mon corps et que je m'expose complètement à toi. Et donc, du coup, il y a aussi la différence pour les garçons. Donc, il faut également savoir que les garçons sont autant sujets à des agressions sexuelles, à viols, etc., que les filles. Malheureusement, les filles sont plus exposées et
plus nombreuses à être victimes.
Donc, pour les garçons, il faut savoir dire oui, parce que c'est pas uniquement parce qu'il faut le faire et parce que tous les copains l'ont fait et que moi aussi je dois le faire qu'il faut le faire. Et c'est pas parce que la situation l'oblige qu'il faut le faire non plus. Et il faut donc être à l'écoute de la partenaire. Donc évidemment, c'est pour ça quand je dis que les garçons sont souvent plus sujets à être l'agresseur dans ce cas-là. Il faut savoir écouter. Parfois, des personnes ne vont pas forcément être au courant que la partenaire ou le partenaire ne veut pas, ne donne pas son consentement. Donc il faut être à l'écoute du corps de son partenaire et aussi de ce qu'il va dire. Il faut respecter évidemment la décision de l'autre, donc il ne faut pas faire de chantage affectif, c'est-à-dire de dire ah oui, bah d'accord, super, enfin, tu me dis non, mais s'il te plaît, et forcer.
Ouais, si tu me dis non, c'est que tu ne m'aimes pas.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc ça, c'est du chantage affectif pour avoir, après ce que, enfin, pour avoir l'acte sexuel, et ça, c'est complètement. C'est absolument pas respecter le consentement de la personne avec qui on veut avoir un rapport. Donc il ne faut pas oublier que lorsqu'une personne dit oui, c'est oui et qu'elle a donné son accord, ça peut toujours changer. Donc, c'est-à-dire que si c'est oui, puis après non, bah c'est non. Ça ne doit pas se passer, le consentement n'est pas respecté. Quand c'est non, c'est non. Donc il y a une importance d'interroger son ou sa partenaire, parce que évidemment, la communication, c'est la clé de ce problème-là. C'est sûr que ça peut être un petit peu compliqué et un peu gênant de demander à son ou sa partenaire « Est-ce que tu es sûr que c'est bon tout le temps ?» Mais c'est important de le faire parce que ça pose des bases et ça pose des bases de communication et de fait que le rapport soit consenti pour qu'évidemment, après, ça se passe bien mieux pour les deux personnes. Voilà.
Et alors, j'imagine qu'après, il y a des gradations, c'est-à-dire que le consentement, on ne le donne pas une fois pour toutes pour quel que soit ce qui va se produire. En fait, on le donne pour chacune des étapes que peut représenter un acte sexuel.
C'est pour ça que si c'est oui pour quelque chose et que c'est non pour l'autre, alors ça ne veut pas dire que si on a dit oui avant, bah, c'est oui pour tout. Il faut évidemment demander à chaque fois l'accord pour chaque étape. Donc évidemment, je rappelle que si un rapport est consenti, il faut que l'autre soit conscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne rappelle pas assez. C'est-à-dire que lorsqu'une personne dort, c'est non. Mmh. Lorsqu'une personne est trop alcoolisée ou alcoolisée, c'est non. Mmh. Et pareil pour lorsqu'une personne est droguée ou en tout cas sous emprise d'une consommation illicite, c'est non. C'est lorsqu'une personne n'est pas consciente. C'est pas l'esprit est brouillé, donc évidemment la décision n'est pas claire dans la tête de la personne qui est sous influence, donc c'est non.
Alors on parle pas que des cas où d'absorption de GBH par exemple, qu'il y a un cas extrême de vraiment manipulation, mais ça peut être dans un rapport amoureux normal que au moment où il se produit une chose alors que la personne n'est pas totalement maîtresse d'elle-même, et que là ça peut déraper.
Évidemment. Et je rappelle aussi que la tenue n'incite absolument pas et n'est pas responsable de quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on est en mini-jupe et en soutien-gorge que l'on mérite ou qu'on doit se faire agresser.
Mais c'est pas un consentement déguisé.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on peut s'habiller comme on veut et c'est pas une raison pour laquelle quelqu'un doit nous sauter dessus et faire quelque chose dont on n'a pas forcément envie. Et l'attitude non plus. C'est pas parce qu'à un moment, la personne avait une attitude où qu'on pense que l'attitude voulait dire oui, que ça veut dire forcément oui. C'est pour ça qu'il faut poser la question à haute voix et demander et interroger l'autre personne. Parce que sinon, c'est non. Et lorsque c'est non, évidemment, je rappelle encore une fois, non, c'est non, c'est pas peut-être. Et même peut-être, c'est non. Donc voilà, comme ça, on pose les bases du consentement et de comment ça marche et de comment est-ce qu'on doit le comprendre. C'est très clair, en réalité. Il ne faut pas aussi se dire qu'il y a certains noms dont on peut forcer un petit peu l'entrée. Lorsque c'est un non, mais non, arrête, c'est non vraiment. Et voilà. Encore une fois, la communication est la clé de tout ça. Donc je laisse la parole à M. Carlier.
Très bien, merci Adèle. En tout cas, vous avez bien compris, surtout vous les garçons, il faut discuter, être à l'écoute. C'est important dans la relation amoureuse, hein, être à l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute, là, c'est que déjà, à la base, il y a un petit souci.
Il y a un petit problème, effectivement.
Oui. Alors, merci Adèle, tu l'as bien souligné, hein, le consentement mutuel, c'est quelque chose qui est au cœur de toute relation saine et respectueuse. Alors, pourquoi est-ce que, à partir de quand est-ce que ça a commencé à déraper, hein? Donc, là, je m'attaque, moi, à la question du consentement dans la société d'aujourd'hui, pas que la société française, bien sûr, mais enfin, on va un peu se concentrer sur ce qui est proche de nous. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que les relations amoureuses au XXIe siècle, et ça, c'est, je veux commencer par cet aspect positif, sont quand même marquées par une plus grande prise de conscience de l'importance du consentement dans la relation amoureuse. Je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord toutes les deux par rapport à ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus dans les médias, c'est quelque chose qui est vraiment mis en exergue maintenant, mis en lumière. Alors, pourquoi ça n'a pas été toujours le cas? Il faut dire qu'on vient d'une société extrêmement patriarcale, et puis qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était la prédominance du mâle qui s'imposait dans la société, et que ça a quand même profondément marqué les relations amoureuses et les relations de couple, de façon générale. Et pendant trop longtemps, le consentement a souvent été considéré comme implicite dans le mariage, hors mariage. Même les violences sexuelles ont longtemps aussi été mises sous le tapis, minimisées, ignorées.
Il y a beaucoup d'émissions qu'on peut trouver sur l'INSA, etc., où en fait, des personnes ont été interrogées, principalement des hommes. On disait, mais vous, est-ce que vous violez votre femme? Bah oui. Enfin, la réponse était généralement, les mères, elles aiment bien ça,
tout
ou juste comme ça.
Tout à fait. Alors, effectivement, là, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais merci de l'avoir dit quand même, Adèle. Effectivement, il y a des hommes pour qui ça pose pas de problème de forcer le partenaire dans la relation. À partir du moment où ils sont mariés, ça leur donne tous les droits. Bon. Alors, c'est pas comme ça. En tout cas, c'est plus comme ça. Ces attitudes du passé ont quand même, malgré tout, encore aujourd'hui, laissé des traces. Hein. Ne serait-ce que dans l'éducation, on le voit bien chez les jeunes gens d'aujourd'hui, il y a quand même toujours une subsistance de ce type de pensée, de ce type de comportement. Les relations sexuelles forcées existent toujours. Et il faut bien le constater, c'est assez navrant. Les victimes sont principalement des femmes. Une femme sur cinq est victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie. Une sur cinq. C'est considérable et ça commence très jeune. Il faut préciser autre chiffre, 85% des victimes de viol ou tentatives de viol sont des femmes. Voilà. Alors donc tu disais tout à l'heure, effectivement, ça peut concerner les hommes, mais la proportion est quand même nettement moindre et je pense que ça se présente sous un autre angle. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas minimiser, bien sûr, le caractère de victime des garçons aussi. Alors comment est-ce qu'on résout le problème au sein de la société? Alors je l'ai dit tout à l'heure, on en parle dans les médias, il y a quand même un débat de société qui est largement ouvert là-dessus et qui, on peut l'espérer, finit par gagner du chemin dans l'esprit des gens. Donc c'est avant tout un problème d'éducation, j'ai envie de dire. Donc il faut éduquer, sensibiliser dès le plus jeune âge toute la population, de façon à ce que finalement ce comportement patriarcal qui existe encore dans les familles finisse par disparaître. Ça risque de prendre un petit peu de temps, mais évidemment l'école est au cœur de tout ça et l'école apprend aux élèves la valorisation du respect, de l'égalité. Et donc forcément ça implique aussi celle de la communication consentie entre les partenaires. Après, il y a la représentation culturelle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les médias, les débats de société, il y a énormément d'ouvrages aussi qui sortent là-dessus. Je crois, Adèle, que tu as entre les mains un ouvrage qui parle du problème. Tu peux peut-être nous le citer.
C'est un livre qui s'appelle « Notre corps, nous-mêmes ». C'est un livre documentaire qui a été écrit rédigé par de nombreuses autrices, en fait. Comme Adeline Lepinet, etc. Et en fait, c'est donc une édition qui s'appelle Manuel féministe. Et en fait, c'est un livre qui est génial, qui ne se lit pas en entier d'un coup d'un trait, mais plutôt par rapport au thème, au chapitre. On choisit ce qu'on va lire. C'est un livre principalement sur les femmes, sur le corps des femmes et sur les femmes dans la société. C'est très intéressant. Je vous le conseille. Il est très facile à lire et surtout, il explique pas mal de choses. Donc il y a beaucoup d'ouvrages, effectivement, et dans les médias. Mais après, il y a aussi le problème de... On parlait d'un sujet culturel, tout ce qui est culture du viol, etc. C'est encore aujourd'hui très présent. Et c'est très compliqué de détruire cette culture du viol qui est présente dans les dessins animés, qu'on a tous regardé quand on était tout petit. Donc c'est compliqué.
Alors merci de m'amener de la transition vers la suite de mon propos, puisque je voulais parler aussi du fait que ça n'était pas qu'un problème d'éducation, ça devient à un moment donné, surtout quand on parle de culture du viol, un problème lié à la justice et du traitement qu'en fait la société, un problème de justice. Il est très important de renforcer les lois et surtout l'application des lois pour protéger les victimes de violences sexuelles et puis de poursuivre les agresseurs. Alors c'est pour ça qu'on vous a sollicité, Madame Forestier, et merci encore d'être là. En dernière partie d'émission, se consacre, on s'intéressera plus précisément à cet aspect-là, le traitement en justice. Entre-temps, bien sûr, vous êtes tout à fait bienvenue à commenter ce qu'on dit.
Oui, bah justement, j'aimerais bien ajouter une petite chose. Depuis tout à l'heure, donc, j'écoute les propos. Et effectivement, il est important de souligner que quand on est en relation amoureuse, nous sommes en relation avec une personne et non pas avec une chose. Oui. Ce qui veut dire que de l'autre côté, il y a également une parole. Et cette parole a autant de valeur que le garçon ou la fille. Fille ou garçon, la valeur de notre parole est exactement à égalité.
Équivalente à celle de l'autre.
Exactement. Oui. À partir du moment que je vais utiliser, que ce soit une contrainte ou une violence, je ne suis plus dans une relation, parce que l'autre n'est plus un être humain, mais une chose. Et je pense que c'est important de le souligner. Quand je suis en relation amoureuse, je dois porter attention à la valeur de la parole de mon ou ma partenaire.
Mmh. Voilà, ne pas respecter le consentement, c'est en quelque sorte détruire la relation dans laquelle on est impliqué.
Évidemment, et puis c'est complètement déconsidérer l'autre. Donc c'est comme si... c'est exactement ça, on choisit l'autre personne.
Mais c'est très difficile parce que ces comportements-là sont quand même très très ancrés dans la société. Enfin, dans ma jeunesse, j'entendais des choses comme de toute façon, quand une fille dit non, ça veut dire oui.
Heureusement, on n'en est plus là.
On nous encourageait à ne pas écouter les filles qui étaient considérées comme des êtres fourbes et qui n'avouaient pas leurs désirs secrets, etc. Enfin, y avait quand même une représentation au sein de la société qui, heureusement, a tendance à disparaître, mais qui est encore ancrée.
Oui, évidemment, c'est le problème. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'entendais déjà encore quelqu'un qui disait que non, mais quand on est en couple, quand on est marié, si l'autre il a envie d'avoir une relation sexuelle, faut le faire. C'est notre devoir en tant que personne mariée. Absolument pas, je le répète encore une fois, c'est parce qu'on est dans une relation mariée, en couple, paxée, n'importe laquelle, qu'on est obligé, qu'on a des devoirs envers l'autre en matière sexuelle. C'est absolument pas ça. Il faut complètement effacer cette idée de la tête. Par exemple, lorsque une personne est mariée de force à quelqu'un, il y a cette culture du viol exactement dont on parlait. Parce que, évidemment, dans la nuit de noces, il y aura une relation sexuelle et la relation sexuelle n'est pas consentie puisqu'on a été mariés de force et donc on nous a forcés à avoir cette relation. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable.
Voilà, alors on va se pencher un tout petit peu, si vous le voulez bien, sur la sexualité chez les jeunes, parce qu'il y a des caractéristiques un petit peu précises là-dessus. Puis ensuite, Adèle, tu as quelques témoignages à nous fournir.
Oui,
on y reviendra, ce ne sont pas des témoignages d'élèves du lycée. On a essayé d'en obtenir, enfin tu as essayé d'en obtenir, parce que ce n'est pas moi qui allais faire l'investigation par rapport à ça. Et malheureusement, on s'est heurté à des refus, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Alors, la sexualité des jeunes. D'abord, je voudrais vous indiquer quelques données qui viennent du baromètre de la santé en 2016. Donc, c'était une enquête assez large sur une tranche de population entre 15 et 17 ans. Donc, d'après ce baromètre de la santé 2016, il faut savoir que l'âge d'entrée dans la sexualité est relativement stable, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont un rapport en moyenne à 17,6 ans pour les filles et à 17 ans pour les garçons. Voilà. Ce que dit ce baromètre, c'est qu'il y a une grande sensibilisation par rapport au port du préservatif, ce qui est plutôt encourageant. C'est-à-dire que là, ça devient un réflexe dans plus de 85% des cas. Donc c'est un chiffre qui est en progression. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore combattre les 15% restants, mais c'est un chiffre en progression. Donc il y a quand même chez les jeunes une sorte d'éveil à la responsabilité par rapport à la relation sexuelle qui est encourageante. Mais la grande majorité des jeunes déclarent avoir souhaité ce premier rapport à ce moment-là, donc ça c'est très bien aussi. Mais 10,7% des femmes déclarent avoir cédé aux attentes de leur partenaire et 1,7% ont été forcées. Voilà. Donc il y a quand même 10% des relations qui ne sont pas complètement consenties, voire pas du tout. Chez les 15-17 ans, 8% des jeunes femmes ont déjà été confrontées à des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés contre 1% des jeunes hommes. J'ai d'autres chiffres, c'est-à-dire que le magazine 20 minutes et Durex marque de préservatif, ont fait une étude sur la sexualité des 18-30 ans en 2021, donc on est un petit peu plus tard, c'était il y a 2 ans simplement. Dans cette enquête, il est fait une distinction entre la communication verbale et la communication corporelle, on en parlait tout à l'heure, et il semblait important de rappeler qu'on peut échanger oralement sans pour autant être à l'écoute du corps de l'autre. C'est-à-dire que ce que dit la bouche, le corps ne dit pas forcément la même chose. Et il faut vraiment être attentif à ces deux formes d'expression de son partenaire. Voilà, ça semble important de le dire. Le consentement est quand même maîtrisé par 90% des sondés. En tout cas, dans ce qu'ils en disent, 90% des sondés indiquent qu'ils sont tout à fait sensibilisés sur la question du consentement. Et à nouveau, la question du port du préservatif se pose, et avec 86% des réponses qui montrent qu'il est important de mettre un préservatif. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on peut dire sur la sexualité des jeunes. Voilà, les enquêtes montrent donc, si je veux résumer, qu'il y a une progression sur une forme de prise de conscience, mais qu'évidemment, il y a encore du travail à faire. C'est là, Adèle, que tu peux nous parler des cas de sexualité forcée et nous donner quelques témoignages que tu as rassemblés dans l'ouvrage dont tu nous parlais tout à l'heure.
Oui, alors je vais vous en donner quelques-uns. Donc, je vous en ai deux plutôt courts et un troisième un petit peu plus long.
RVM, vous écoutez T'as capté, une des émissions de Radio Capet de la Maison des lycéens de Hugues Capet, de Senlis, sur le thème du consentement. Tout de suite, Adèle, lycéenne, donne quelques témoignages de sexualité forcée.
Donc on a Pauline, 34 ans, qui nous explique que lorsqu'elle était stagiaire dans une ONG qui luttait pour les droits des réfugiés, donc elle était entourée d'une atmosphère sympa, des gens cool et engagés. Mais lorsqu'elle était en train de faxer un document urgent pour la Cour européenne des droits de l'homme, un des juristes l'a attrapée par les fesses et elle se retourne. Elle est sciée, évidemment, et il lui a dit, sourire aux lèvres, « Désolée, j'étais trop tentée ». Donc, encore une fois, le consentement n'est absolument pas respecté. Donc, apparemment, ce juriste lui demandait souvent s'il pouvait aller boire des coups, pourquoi... elle ne mettait pas ses yeux en valeur avec du maquillage ou des fringues un petit peu plus classe. Au taf, apparemment, elle était tout le temps sur ses gardes, évidemment, elle avait peur. Elle faisait tout pour ne pas être seule avec lui. Et en fait, elle a découvert, en discutant avec des autres stagiaires de cette ONG, que c'était un harceleur récurrent. Mais évidemment, personne n'a rien dit, car c'était une personne qui avait un poste central dans l'association. Et donc, les filles devaient être redevables à cette personne qui avait un poste supérieur, donc qui avait une autorité sur elles, et elles devaient être admiratives, alors que c'était une personne qui harcelait ces jeunes femmes. Après, on a Léa, qui a 32 ans, qui dit « J'ai été violée il y a un peu plus de 10 ans. On s'est croisés, mais elle ne dirait pas rencontrer. Et quand elle était en Erasmus, ça s'est passé, c'était dans une soirée d'étudiants. Elle a dû boire quelque chose qui l'a mise dans un état second. » Elle pense avoir été droguée parce qu'elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé. C'est juste quelques flashs. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très récurrent. Et en fait, elle a eu un flash où elle est tenue sous les épaules par un homme dans les allées du campus. Et un autre flash qui correspond à son réveil. Et où elle est dans la chambre de cet homme complètement nue dans son lit. Donc elle a eu très peur parce qu'évidemment, elle n'était pas du tout là où elle était censée être. Et elle a eu un comportement un petit peu fou, un peu paniqué, puisqu'elle a ramassé ses affaires et elle est rentrée chez elle. Et en fait, l'homme en question est revenu le lendemain, lui rapporter ses boucles d'oreilles qu'elle avait oubliées sur la table de nuit. Et elle a compris plus tard, en parlant au téléphone avec une femme du collectif féministe contre le viol, que c'est des stratégies de ce genre de personnes... on va dire inconsciente, pour semer le doute, voire faire croire à la victime que ce qui s'est passé est normal. C'est-à-dire revenir voir sa victime, c'est dire en fait ce qui s'est passé hier, c'était complètement consenti et t'as oublié tes boucles d'oreilles. Voilà. Donc ça a été complètement un choc. Et c'était la double négation de ce qu'elle voulait, enfin de ce qu'elle venait de vivre. Et puis ça a encore plus scellé l'oubli, la honte. Et après cette nuit, elle est restée 3 jours enfermée en pyjama. Elle n'a pas pu bouger. Et il a fallu qu'elle revienne à la vie. Et donc elle a tout mis aux oubliettes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à dire. C'est que généralement, la mémoire, lorsqu'on a eu un trauma qui est très traumatisant et très violent, on aura tendance à oublier, à mettre dans un coin de notre cerveau les événements.
Jusqu'à ce que ça ressurgisse de façon beaucoup plus violente et spectaculaire et handicapante.
Ouais. C'est très compliqué. Et puis, toute personne qui est victime de ce genre d'agression a une réaction qui est différente. Je vais passer au troisième témoignage. Donc, c'est une jeune fille de 16 ans qui a vécu ça. Donc, c'était une petite soirée où elle s'est retrouvée seule avec un garçon qu'elle considérait comme un très bon ami. D'ailleurs, je rappelle que 9 cas sur 10 des agressions sexuelles ou viols sont faits par des proches de la victime. Et au cours de cette soirée, les personnes étaient très alcoolisées, dont la victime et l'agresseur en question s'est mis à rouler un joint. C'est un consommateur de drogue. Et en fait, la victime, dans une grande, avec beaucoup d'intelligence, s'est dit « mais c'est une bonne idée pour moi de fumer mon premier joint et d'essayer pour la première fois ». Et en fait, c'était tellement trop pour l'organisme de la personne que elle était complètement dans un état inconscient, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à tenir debout, elle n'arrivait plus à marcher. L'agresseur a proposé de dormir chez lui, qu'évidemment, il allait rien se passer, qu'il allait dormir dans un autre lit, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, puisque ses parents le savaient, qu'il faisait souvent dormir des gens comme ça chez lui. Et en fait, arrivée dans cette chambre, la victime ne sait pas du tout comment elle s'est retrouvée là. Elle n'a aucune idée de comment ça s'est passé. Donc, elle s'est posée sur un coin du lit pour ne pas déranger. Et en fait, lui, il lui a dit « mais tu sais, t'inquiète pas ». C'est bon, je peux me mettre à côté de toi dans le lit, mais il ne va rien se passer. Et puis, évidemment, en faisant confiance, du coup, Adélaïde a dit, évidemment, je te fais confiance, il ne va rien se passer, je me mets dans un coin du lit, je ne vais pas te déranger. Et au final, il s'est mis dans le lit, il lui a dit, mais tu vas avoir froid. Il lui a mis la couverture dessus. Lui s'était mis sous la couverture, il lui a dit, mais maintenant, c'est moi qui vais avoir froid. Et il l'a tiré contre elle. Et de nombreux attouchements en ont suivi. Évidemment, c'est là où la technique de soit on fuit, soit on arrête de bouger, soit on se débat, s'active, parce qu'en fait, la réaction de Adélaïde a été clairement de ne pas bouger, et c'est-à-dire de sidération complète, puisque comment ça se fait que cette personne-là puisse me le faire à moi? On est très amis, je comprends pas. La pensée de Adélaïde, c'était vraiment, ok, c'est le moment où je vais me faire violer, ça arrive à beaucoup de femmes, et en fait, ça va être mon moment. Elle s'est réveillée le lendemain, et en fait, elle ne se souvenait absolument pas de comment est-ce qu'elle avait atterri dans cette chambre. Et elle a dû se rhabiller et descendre dans la cuisine où il y avait le père de l'agresseur. Où elle a dû lui demander, excusez-moi, mais comment je fais pour sortir de chez vous? Et le père qui l'a regardé avec des yeux en se disant, t'as passé la nuit avec mon fils, sympa. Et juste essayer de garder le sourire et rentrer chez soi. Après, évidemment, la réaction qui en a découlé, d'abord, ça a été des grosses larmes. Et puis, évidemment, se taire dans le secret. Évidemment, ne pas en parler, c'était la première chose à faire. Puisque c'est l'ami de tout le monde le connaît, donc on ne peut pas lui faire ça à lui, parce que ça va lui ruiner sa vie, mais d'un autre côté, ça ruine la vie de l'autre. Ce genre de témoignage, évidemment, ça montre bien, encore une fois, que lorsque la personne est inconsciente, ça veut dire non. Et qu'on peut, évidemment, il faut aussi se rendre compte qu'une agression sexuelle peut traumatiser, ou un viol peut traumatiser une personne à vie. Ça laisse une blessure qui peut se refermer, et beaucoup de travail, mais voilà. Je vais laisser la parole à Madame l'adjudante, qui va pouvoir répondre à quelques questions.
Bien, alors on va passer bien sûr au traitement maintenant, j'allais dire, policier et judiciaire de l'absence de consentement. Alors d'abord, que dit la loi en France sur le consentement? Il faut savoir que le consentement n'est pas une notion qui existe dans le code pénal. Il y a des définitions sociologiques, mais dans le code pénal, on ne trouve que la définition du viol ou de l'agression sexuelle ou de l'inceste. Donc ça, c'est de ça qu'on va parler, mais effectivement, la notion de consentement n'est pas écrite dans la loi. Cependant, il aura fallu attendre le 21 avril 2021 pour que l'Assemblée nationale adopte définitivement une proposition de loi qui visait à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, parce que ça n'existait pas avant.
C'est la belle progression au niveau de la loi sur cette reconnaissance.
Bon, ça semble quand même très très tardif en 2021, parce que bon. Alors, on parlait donc de l'importance du traitement judiciaire, et je vais vous soumettre à quelques questions, mais d'abord, vous vouliez rebondir sur le témoignage, les témoignages que vous fournissez.
Oui, tout à fait. Je me sens dans l'obligation de rebondir. Donc, je vais me permettre également d'aborder la partie psychologique, puisque je suis actuellement... je suis titulaire d'un diplôme universitaire en psychologie de l'adolescent, et actuellement, je suis en cursus universitaire sur les violences faites aux femmes. Donc, effectivement, là, je ne peux ne pas rebondir. Sur ces trois situations, clairement, sur la première situation, on a affaire à une agression sexuelle dont la stratégie a été la surprise. Mmh. Donc, j'imagine que la surprise a été tellement élevée que l'état de sidération était bien présent, puisque l'état de sidération fait qu'on est dans l'incapacité totale d'y répondre, puisque la réponse émotionnelle n'est pas au rendez-vous. Il y a une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale qui commande cette réponse émotionnelle. Donc, spécifiquement, dans le premier cas, on a affaire à une agression sexuelle. Mmh. Hein, on touche les parties intimes d'une tierce personne sans lui demander son consentement. Là, pour le cas, c'est la surprise qui a été utilisée. On a bien la contrainte et la loi n'est pas neutre. La loi stipule ce qui est interdit par la loi. Et là, pour le coup, l'agression sexuelle est bien interdite par la loi. L'effet de surprise qui a été utilisé caractérise complètement la définition donnée par le code pénal de l'agression sexuelle. Dans le deuxième cas, on a clairement affaire à une situation de viol. Et dans le troisième cas, il y a eu un mécanisme stratégique de mis en place en amont, puisqu'il y a notamment l'utilisation, la proposition de consommation de produits illicites. Et quand on connaît ce type de produit, on sait très bien dans quel état on va retrouver l'autre. Donc c'est une stratégie pour...
Alors quand vous dites donc, oui. On sait très bien dans quel état on va retrouver l'autre, ça dépend aussi du dosage, du type de produit, non?
Là, vu que les deux personnes se connaissaient très bien,
oui.
Le garçon en question savait très bien que cette jeune fille n'était pas une consommatrice régulière,
oui.
Et qu'il risquait fortement d'avoir un état second, une désorientation, et que cette désorientation allait pouvoir lui servir dans sa stratégie. Sachant que la consommation d'alcool, la consommation de produits illicites n'est pas une circonstance atténuante, excusable. C'est bien une circonstance aggravante. Donc là, qui vient aggraver la situation. Cette jeune fille qui connaissait très très bien et particulièrement ce jeune homme s'est retrouvée effectivement dans un état de sidération tel que la réponse émotionnelle n'a pas été au rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle n'a plus rien dire, elle n'a pas pu verbaliser, elle n'a pas pu bouger, elle n'a pas pu crier et encore moins n'a pu partir, quitter la pièce. Chose que quand bien souvent on se dit « oui, si ça m'arrive, je quitterai, je partirai, je crierai ». C'est on ne peut pas prévoir à l'avance de quelle façon on va réagir. On n'a pas une conduite à tenir face à telle ou telle ou telle situation. Donc là, on a bien affaire à un état de sidération qui lui a permis effectivement de mener la danse, en fait. C'est, à ce moment-là précis, il était le chef d'orchestre de ce qui était en train de se passer. Et puis à un moment donné, il y a peut-être eu une dissociation traumatique, c'est-à-dire peut-être que la jeune fille s'est retrouvée spectatrice de ce qui lui arrivait. Et en troisième temps, eh bien, il y a une mémoire traumatique qui, je pense, n'a pas peut-être encore été traitée. Et il est primordial de traiter cette mémoire traumatique parce qu'une odeur, un objet, se retrouver dans le noir, un essoufflement, va réveiller ce mauvais souvenir, qui n'est pas un mauvais souvenir, c'est un vécu, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas de l'imaginaire, ça s'est réellement passé. Mmh. Et cette mémoire traumatique, si elle n'est pas traitée, à un moment donné, elle va exploser au visage de la jeune fille et elle peut se sentir très très mal et tomber dans une dépression très très élevée. Donc c'est très important aujourd'hui quand on vient à subir ce type de situation précise, comme ça a été expliqué dans les trois cas, dans les trois témoignages qui étaient vraiment très explicites, il faut absolument oser en parler. Oser en parler, c'est aussi faire une thérapie sur soi-même, poser des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, pour pouvoir avancer et surtout se déculpabiliser. Parce que ce n'est pas son propre comportement qui a fait que la situation est arrivée. Là, notamment dans la troisième situation, ça a bien été préparé. Donc voilà, je voulais rebondir sur ces trois situations.
Ça semble effectivement tout à fait important. Donc vous avez souligné vraiment l'importance aussi de ne pas enterrer ce type d'événement, de ne pas essayer de le refouler ou de l'enfouir au fond de sa mémoire en attendant que ça passe. Mm. En fait,
ça va se réveiller,
ça va être explosif.
Exactement.
Donc il y a un traitement psychologique
qui
convient de faire.
Un suivi personnalisé, psychologique, voilà. À réaliser.
Alors, ça bouleverse un peu l'ordre des questions qu'on avait envisagé de vous poser, mais c'est parti. Parce que lorsque vous-même accueillez des victimes de ce type d'agression, donc est-ce qu'il y a un soutien psychologique immédiat qui est prévu ? Comment les victimes sont prises en charge de ce point de vue-là ?
De toute façon, j'ai envie de dire, peu importe la fonction que l'on occupe, on se doit de prendre en compte le trauma. Le traumatisme vécu. Donc policier, gendarme, qui reçoit donc une victime de faits à caractère sexuel, donc on va parler d'agression sexuelle ou de viol, se doit effectivement de prendre en compte ses émotions. Ces émotions qui vont permettre également en face de répondre par une neutralité bienveillante. Voilà, depuis tout à l'heure je vous écoute, voilà ce qui s'est passé, les propos que vous me déclarez sont tout simplement... des faits de violence sexuelle. La violence sexuelle est interdite par la loi. Voilà. Une neutralité bienveillante. Je lui montre que la loi dit que c'est interdit et ce qu'elle a vécu, c'est interdit et que l'on est là à son écoute pour recueillir sa parole et que le responsable puisse répondre de ses actes délictueux ou criminels.
D'accord. Oui. Donc alors c'est le cas quand c'est vous, puisque vous nous avez indiqué que vous avez été formé à ça, vous avez un diplôme universitaire.
Tout à fait.
Est-ce que c'est le cas partout où les victimes peuvent déposer plainte ? Est-ce qu'il y a vraiment cette écoute qui est systématique ? Est-ce que tous les gendarmes et représentants de la loi sont formés à cette écoute ?
Alors en tout cas, pour ce qui est des gendarmes de l'Oise, l'ensemble des gendarmes de l'Oise ont été spécifiquement formés à la prise en compte des violences intrafamiliales, puisque la formatrice, vous l'avez devant vous. Donc j'ai pu réaliser cette formation de 7 heures auprès de 1100 gendarmes sur la prise en compte, la prise en charge, l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. Donc on va parler de violences conjugales, on va parler d'agressions sexuelles, de viols, mais également tout ce qui est violence entre enfants, parents, enfants, beaux-parents, enfants, grands-parents.
D'accord. Vous parliez des violences intrafamiliales, donc c'est vrai que malheureusement, les violences sexuelles peuvent aussi se produire au sein de la famille.
Exactement.
Donc c'est un facteur aggravant, j'imagine.
Oui.
Mais donc, cette formation que vous avez dispensée à l'ensemble des gendarmes de l'Oise, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Donc, concerne aussi la prise en charge des viols hors de la famille.
Exactement. C'est-à-dire que dès l'arrivée d'une personne à la brigade de gendarmerie, on doit avoir cet accueil bienveillant. Et cette bienveillance va déjà passer par le comportement, l'attitude que je vais envoyer à l'autre personne. C'est-à-dire que je dois adopter une posture correcte, la regarder, lui dire bonjour en la regardant dans les yeux et essayer de capter la sensibilité. Et si dans l'immédiat, je sens une fragilité, une sensibilité, on ne va pas laisser la personne exposer sa situation dans le local d'entrée. On va l'inviter à nous suivre dans un bureau pour respecter la confidentialité de l'entretien. Et on va même aller plus loin que ça. On va pouvoir lui poser la question si elle souhaite ou il souhaite être entendu par un homme ou par une femme. D'accord. Lorsque le moyen humain au sein de l'unité, au sein de la brigade existe, s'il y a des hommes et des femmes gendarmes, on va systématiquement poser la question, souhaitez-vous être entendu par un gendarme masculin ou souhaitez-vous être entendu par une collègue féminine ?
Mais en fait, c'est génial que vous en parlez, parce que je dis pas du tout que vous avez mal fait votre travail, etc., mais en fait, je pense que on parlait d'éducation, etc., et de les comportements personnels. Je pense que, par exemple, moi, j'ai dû témoigner dans une affaire, je sais pas si vous en avez entendu parler, d'un moniteur d'auto-école qui a harcelé sexuellement plusieurs élèves, et j'ai dû témoigner dans cette affaire. Et en fait, le gendarme qui a pris ma déposition, moi, je me souviens très bien que, du coup, je lui ai raconté ce que la personne m'avait dit. Et il avait fini par me dire, ouais, bon, en fait, il faut aussi savoir qu'il y a certaines jeunes filles qui sont plus ou moins prudes. Et puis, bon, voilà, il faut savoir dire quand est-ce qu'il faut arrêter. Mais bon, il a fait des blagues. Hein, et en fait, je me disais, mais c'est marrant. Enfin, c'est très étrange parce que je sais que vous êtes formé, mais vous êtes responsable de la formation.
C'est un comportement inapproprié face à la situation.
Exactement. Et il y a ce truc où des fois, et je sais pas, par exemple, des personnes que je connais qui ont elles aussi témoigné ont été extrêmement bien prises en charge par des gendarmes. Femmes et hommes, alors vraiment je me suis dit mais c'est pas possible, je suis vraiment tombée sur le seul qui...
C'est vraiment le genre de comportement masculin au sein de la gendarmerie qui a longtemps été décrié lorsque des hommes devaient recueillir des propos liés au viol. Mais c'est en évolution quand même.
Très belle évolution dans la prise en compte de la parole adulte comme enfant.
RVM, vous écoutez T'as capté ? une des émissions de Radio Capet de la Maison des lycéens de Hugues Capet, 210, sur le thème du consentement. Tout de suite, Sandrine Forestier, adjudante chef de la Maison de prévention et de protection des familles de Beauvais.
Effectivement, notamment lorsque c'est prévu, lorsque l'on sait que la plainte va arriver, surprise de rendez-vous, on va pouvoir y positionner un gendarme spécifiquement formé à ça. Formé à parler de violences sexuelles, à utiliser des propos à caractère sexuel, parce que tout être humain n'est pas forcément amené à être à l'aise à discuter de propos à caractère sexuel. Donc déjà, il faut être aussi être en accord avec ça, avec soi-même. Mmh. Et la plus grande intelligence, comme je l'ai déjà dit et redit aux collègues gendarmes, à mes camarades, que lorsque vous sentez que voilà, la sensibilité est tellement forte, ça vous dépasse, ou alors vous vous sentez plutôt l'intelligence, tout simplement, c'est d'aller voir un autre camarade et lui dire, voilà, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce que tu peux m'assister à l'audition? Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la formation a été réalisée. Ils savent que c'est fini le temps où on travaille tout seul. On est en difficulté, on demande de l'aide aux camarades. Et effectivement, des difficultés peuvent se présenter du fait de mon âge par rapport à l'âge de la personne qui se présente. Hein, on peut penser aux jeunes gendarmes sortis d'école, 22 ans, une jeune fille de 20 ans qui se présente à l'unité, qui souhaite déposer plainte pour viol. Effectivement, c'est intéressant de se faire assister par un camarade plus expérimenté. Mmh. Mmh. Et puis notamment, si au sein de la brigade, il y a une femme gendarme, pourquoi pas également de se faire assister par cette femme gendarme.
Voilà.
Ils ont les clés aujourd'hui, en tout cas.
Oui. Alors, parmi nos auditeurs, il y a très certainement des victimes d'agressions sexuelles.
Oui.
Peut-être certaines d'entre elles n'ont pas entamé la démarche de porter plainte ou de le signaler au service de gendarmerie. Donc, on vient de le voir, il y a un des premiers obstacles, c'est celui-ci, c'est de la peur de s'exprimer devant des inconnus. Des gens qui ne sont pas... on a toujours en tête des images d'Épinal, de gens qui sont très maladroits. Bon, vous nous rassurez en nous disant que c'est quelque chose qui est vraiment en évolution. L'autre obstacle, c'est, Adèle en a parlé un petit peu, c'est que parfois on connaît son agresseur, puis on n'a pas envie de lui porter un tort excessif non plus. C'est-à-dire, on n'a pas envie, on parlait de réputation, on parlait de...
Oui,
Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à toutes ces personnes qui ont peur de déclencher un cataclysme nucléaire en déposant plainte et de faire des ravages considérables?
Spécifiquement dans ce type de situation, il faut penser à une seule personne, c'est à vous-même, à soi-même, à son estime que l'on a de soi-même.
Et à la nécessité de se reconstruire
exactement,
le plus vite possible.
Et la nécessité de se reconstruire. Et ça va passer par le cercle judiciaire. Et puis, pour soi, et puis il est hors de question qu'il réadopte ce même comportement envers une autre jeune femme. Donc ce devoir, je l'ai envers moi-même et envers les autres. Mais avant... Envers soi-même. Donc là, on est dans un sentiment de culpabilité tel que ce sentiment de culpabilité, si on ne se fait pas aider psychologiquement, on va rester ancré dedans. Ce n'est absolument pas de notre faute. C'est une situation non seulement qui n'est pas normale, mais surtout c'est une situation qui est interdite par la loi. Et ça, le code pénal le dit bien. Hein. Je le répète, la loi n'est pas neutre. Elle dit clairement ce qui est interdit, et c'est interdit.
Et quand vous dites qu'il faut penser à soi, certainement il faut mesurer, et ça c'est peut-être la difficulté quand on vient d'être victime de quelque chose de cet ordre, la difficulté c'est de mesurer quel ravage ça va causer en soi et vers quoi ça va nous amener avec le temps. Ça peut mener au suicide, semble-t-il.
On va rentrer dans une dépression, et une dépression que l'on ne va plus du tout maîtriser, puisqu'on n'aura pas demandé de l'aide. On n'aura ni d'aide psychologique, ni d'aide médicamenteuse, ni ne serait-ce qu'un confident, une confidente, pour pouvoir verbaliser le trauma, l'extérioriser. Et donc, de fait, cette dépression peut aboutir à un suicide, effectivement.
Et plus on attend, plus c'est difficile.
Plus c'est difficile.
Ouais. Parce qu'en fait, le traitement qui va en être fait sera forcément pas le même. On n'aura pas l'occasion d'intervenir de façon immédiate. Et puis, il va falloir redéterrer ce qu'on avait enterré soigneusement.
C'est ça. Et on se dit à un moment donné, c'est bon, c'est bien enterré, je gère. Je gère, mais jusqu'à quand? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la mémoire traumatique, une odeur, un instant, une phrase, un mot, peut déclencher, peut réveiller ce traumatisme, nous exploser en plein visage et ne plus avoir le contrôle sur soi-même. Ouais. Et là...
Très bien. Bah, en tout cas, je pense que vous venez de répondre à la question essentielle. Quand on est victime, comment est-ce qu'on lève la crainte d'aller porter plainte? Là, vous nous avez bien éclairé sur ce sujet. C'est extrêmement important.
Et je pense que c'est important qu'il faut qu'elles entendent qu'aucune attitude de sa part à elle, ne justifie les violences subies et que l'agresseur est le seul et unique responsable. Mmh. D'accord. En aucun cas, la victime n'en est responsable. C'est bien l'auteur des faits qui est responsable. C'est lui qui, volontairement, a fait ce choix, a pris cette décision d'adopter ce comportement-là. Et là, pour le coup, on va revenir au témoignage, il a très bien choisi sa victime.
Je pense, on avait préparé toute une liste de questions, puis finalement vous y avez répondu de façon transversale, vous les reposer. Et puis le temps est venu d'aboutir à une conclusion à cette émission. Adèle, est-ce que tu as une dernière question à Madame Forestier?
Mais c'était une question où vous avez un petit peu répondu, mais on a l'impression que beaucoup de cas n'aboutissent jamais à une plainte. Qu'est-ce qui peut être fait ou qu'est-ce qui est fait pour surmonter un petit peu ce cas qui est plus judiciaire que policier, j'ai envie de dire, parce que du coup ça en découle moins de vous.
Alors déjà, je pense qu'il est très important qu'il faut savoir que nous n'avons pas besoin de dépôt de plainte pour déclencher une enquête judiciaire. Un signalement peut être la saisine de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Des victimes, par des craintes différentes, la peur de décevoir, la honte, l'image qu'on projette sur les autres, n'osent pas venir déposer une plainte. Nous les informons que nous pouvons parfaitement recueillir leur audition, et à la fin de celle-ci, la question leur sera posée: souhaitez-vous déposer plainte? Et cette décision leur appartient. À aucun moment, l'enquêteur ne prend cette décision à la place de la victime, parce que ce choix, cette décision lui appartient complètement. Et ça fait également partie de la thérapie de reconstruction. Sachez que chaque plainte reçue fait l'objet d'un traitement prioritaire, notamment lorsqu'il s'agit de violences intrafamiliales, d'agressions sexuelles, de viols. Ces formes de violences mobilisent tous les acteurs de la sécurité, police comme gendarmerie, les associations d'aide aux victimes. Les associations d'aide aux victimes, ça peut être aussi une porte que l'on peut pousser, ne serait-ce que pour une première approche, pour verbaliser ce que l'on a vécu. Les magistrats également sont dans la boucle et prennent en compte et effectivement le trauma, puisque aujourd'hui, systématiquement, que ce soit une enquête judiciaire ouverte pour une agression sexuelle ou pour viol, une expertise psychologique est réalisée pour notamment déterminer si au moment des faits, il y avait un état de sidération, de dissociation traumatique, pour justement comprendre aussi la stratégie, la mécanique qui a été mise en place par l'auteur des faits. Lors du recueil de la parole d'une victime, et il y a un point d'ordre, c'est le non-jugement de la situation vécue. À aucun moment, l'enquêteur, l'enquêtrice n'a le droit d'exprimer un jugement sur la situation vécue, parce que cette situation vécue ne lui appartient pas. L'enquêteur, il est là pour constater les faits, relater les choses, les faits, la situation au magistrat de permanence pour qu'il y ait une décision pénale, mais en aucun cas l'enquêteur est juge. Il est là pour relater les faits, exploiter les indices pour en faire des preuves matérielles et pour aller chercher à constituer l'infraction. En ce qui concerne donc ce que je disais tout à l'heure pour les militaires de la gendarmerie de l'Oise, il faut savoir que tous ont reçu cette formation spécifique au recueil de la parole. En ce qui concerne la prise en compte des violences intrafamiliales. La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs. En tout cas, on essaie de faire de cet effort, parce que si une première audition, dans la première audition, il nous manque des éléments, on va réinviter la victime à venir auprès de nous et on fera en sorte d'y mettre en face le même enquêteur ou la même enquêtrice. C'est quelque chose qui est très important aussi dans l'avancée de la situation. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et par rapport à l'expertise psychologique, ça permet aussi de déterminer si la victime a besoin d'un suivi personnalisé. Et si c'est le cas, eh bien, elle est orientée par l'association. Donc pour le département de l'Oise, c'est l'association France Victimes 60, qui, dont le siège se situe au tribunal de grande instance à Beauvais. Mmh. Il y a également deux autres annexes à Senlis et à Compiègne. Mais voilà, lorsque la victime repart de chez nous, de l'unité, de la brigade, en aucun cas on ne la laisse repartir tout seule sans rien. Elle repart avec des informations, elle repart avec le numéro de téléphone de l'enquêteur l'ayant auditionné, qui lui permet à tout moment, même dans 15 jours, des questions qui apparaissent que dans 2 semaines, parce que voilà, il y a eu un temps de réflexion plus ou moins long, eh bien, elle sera dans la possibilité de pouvoir se rediriger vers cet enquêteur ou cette enquêtrice pour poser cette question. Mais en aucun cas, on essaie de repartir la personne apaisée, soulagée, en ayant apporté toutes les réponses à ces questions. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Madame l'adjudant. Oui, et merci encore de votre participation à cette émission. Votre présence a été extrêmement précieuse. On a bien développé le sujet. Et on remercie tous les gens qui nous ont écoutés.
Oui, merci beaucoup, encore une fois, de nous écouter à chaque
fois.
Voilà,
donc je vous rappelle que vous venez d'écouter T'as capté, l'émission des élèves du lycée UKP de Senlis. Et il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir, Madame Forestier.
Au revoir à tous.
Au revoir, Adèle.
Au revoir.
Et à une prochaine.
Bon, t'as capté ou pas? Non, mais t'as rien capté, en fait.
Bon, elle laisse tomber, il a rien capté.
À réécouter en podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr. Bonne écoute sur RVM.